Troisième partie. Divergence. Chapitre 1. Le capitaine Dewey Ward était sur la passerelle de l'USS Obama, un destroyer de classe Zumwalt, des navires dits furtifs. De furtifs, il n'avait plus rien depuis plusieurs semaines, s'exaspérait Ward. À tourner en rond comme ça autour des plateformes luxe, dans cette nasse de cibles mouvantes, chaque bateau était parfaitement identifié, et sa route connue de tous, sans intention ni possibilité d'en dévier. Il fallait tourner, et voilà tout. À en devenir dingue. Howard était en charge de s'assurer que tout se passait bien, de coordonner les mouvements de la 4e flotte, sous le commandement de l'US Southcom et de la 2e flotte, elle sous le commandement de l'US Joint Forces Command. Son job consistait à contrôler que chacun tournait à sa position, et c'était tout. Un enfant de 6 ans aurait pu assumer la charge. Certes, il fallait gérer le passage des John Lewis, les pétroliers qui leur remplissaient le ventre, les petits pépins techniques, l'entrée et la sortie du cargo de ravitaillement vers luxe. Mais dans l'ensemble, Howard pouvait lire son Kindle peinard 10 heures par jour. Et ça n'était pas bon signe pour un marin de voir ainsi le temps passer. Même la surveillance des marines indiennes et russes au large ne lui était pas confiée. Le Pentagone préférait superviser. À bord, et Howard savait que c'était la même chose sur les autres navires, les gars s'impatientaient et maugréaient contre cette manœuvre qui n'avait aucun sens. Tourner en rond. Combien de marines différentes brassaient la mer sur ces quelques milles à partager? Tactiquement, c'était une hérésie. Aucun sens. Mais Howard devinait que c'était justement l'idée. Si tout le monde était prévisible et ultra vulnérable, cela devait normalement suffire à rassurer chaque état-major, puisqu'ils se neutralisaient tous. Mais à quoi servait-il ainsi? Protéger le secteur aurait été possible de manière plus discrète, moins humiliante, et en gardant un minimum de précautions. En agissant ainsi, humainement, quel était le message qu'il était censé transmettre à ses troupes? Discipline, les gars! Vous êtes sacrifiés pour le grand bien de tous! La Navy n'était plus une force militaire. Elle était un outil de com et rien d'autre. L'enseigne de vaisseau Ryan approcha et tendit une feuille à Howard. Ça vient d'arriver par SATCOM. Howard lut et se redressa dans son siège de commandement. Un problème? Fit le commandant Mancuso. Vito Mancuso était le second à bord. Un type droit, très à cheval sur le protocole, agréable mais sans aucune imagination. La 6e flotte s'est déployée hors de Méditerranée, dans l'Atlantique Nord.
Toute la flotte?
Quasi.
Qu'est-ce qui leur prend?
Ils cherchent, dit Howard d'un air sombre.
En dehors de leur zone? En quittant la Méditerranée alors que nous y sommes engagés sur plusieurs fronts de surveillance et d'influence cruciaux? Mais qu'est-ce qui peut bien justifier le SNA Rasputin?
Annonça Howard en se levant pour venir se poster devant les fenêtres de la passerelle. Mancuso cogitait. Comme Howard, il savait très bien ce qu'était le Rasputin. Un sous-marin nucléaire d'attaque russe de classe Yazen Z, la toute dernière du genre. Le nec plus ultra des SNA, capable de lancer des méga-torpilles nucléaires Poséidon 2 à des centaines de kilomètres de distance, sans qu'elles soient détectables avant qu'il soit trop tard. Et le Rasputin était un sous-marin furtif de nouvelle génération. 6 mois plus tôt, il avait semé la panique au Pentagone, lorsqu'il avait littéralement disparu de tous les radars de la Navy, qui jouait le traquer en plein océan Atlantique, à moins de 600 milles des côtes canadiennes, et donc avec les États-Unis presque à sa portée. Le Rasputin était réapparu 8 jours plus tard sur les satellites qui surveillaient en permanence Polyarny, la base et le chantier naval des sous-marins russes. 8 jours pendant lesquels il aurait pu faire ce qu'il voulait, à commencer par détruire le monde. Les Russes n'avaient pas les finances pour maintenir une armée correcte en quantité, mais lorsqu'il s'agissait de bâtir un phénomène, ils y investissaient l'essentiel de leurs ressources.
« Il a disparu quand ?»
s'alarma Mancuso.
« Il y a 3 jours. » Trois jours ? » s'écria le commandant. « Et c'est maintenant qu'ils nous préviennent ? Ils pourraient tout autant être déjà devant New York ou au pied de Washington, dans le Potomac !»
Howard scrutait l'océan devant eux.
« Ou ici, » dit-il.
Sphère embrasait l'azur au-dessus des plateformes luxe.
« Qu'est-ce qu'ils viendraient foutre là ?» s'énerva Mancuso. Si la plupart des pays s'alliaient dans notre dos pour s'accorder le monopole de la recherche sur une toute nouvelle technologie, potentiellement extraterrestre, est-ce que vous croyez que nous resterions à attendre les bras croisés ? Il faut se mettre à leur place, Vito. Je peux comprendre les Ruskov. Le Silverside et le Jimmy Carter sont à moins de 100 milles de notre position. On peut les rapatrier en urgence et leur faire sonder le secteur. On finira bien par identifier sa signature acoustique à cet enfoiré. Il s'agissait de sous-marins nucléaires d'attaque. De classe Virginia pour le premier. Un monstre de technologie moderne, mais qui n'était pas au niveau du Rasputin. Et de classe Seawolf pour le second. Une antiquité dépassée qui devait prendre sa retraite depuis longtemps, mais qu'on maintenait en service faute de budget pour le remplacer. Une réalité même dans la première armée du globe. Ce qui ne changeait rien au fond du problème. L'accord avec l'ONU est formel. Aucun sous-marin sur site, rappela Howard. Plusieurs nations n'en disposent pas. Ils ne voulaient pas d'un avantage stratégique unilatéral si près de se faire. De la merde, oui. C'est une situation de crise. Qu'en dit Norfolk ? Ce qu'en dit la Maison Blanche ? On ne bouge pas et on surveille. La sixième flotte est en charge de retrouver le Rasputin. C'est ridicule, s'il est déjà là ! Il espionnera et il rendra compte à Moscou. Il fera ce pour quoi il est fait. En attendant, on déploie l'ASM. On met les sonars actifs à l'eau et on écoute, si tant est qu'on puisse entendre autre chose que tout le bordel en surface. Mancuso s'approcha. Dis oui. C'est aussi et surtout un lanceur de missiles, avoua-t-il d'une voix qui trahissait son inquiétude. Il est seul, furtif ou pas, il ne prendra jamais le risque de s'attaquer à notre flotte. Nous sommes trop nombreux pour lui. Si nous n'étions pas la cible ! Howard approuva imperceptiblement, tout en scrutant la boule de lumière au loin. « Et sauf votre respect, capitaine, » dit Mancuso en regardant dans la même direction, « ce n'est pas extraterrestre. » Howard se tourna vers son second, surpris. « C'est Dieu !» ajouta Mancuso. « Et personne ne touche à Dieu !»